Dans l'Antiquité, et probablement plus en amont encore, le corbeau est associé à de nombreuses divinités, et peut-être lui-même aussi une divinité. On a des traditions qui font du corbeau soit le maître du monde, soit le créateur du monde, en tout cas un oiseau extrêmement valorisé, qui sait tout, qui voit tout.
CO2, mon amour.
Dans la longue durée, d'ailleurs, on peut penser que le corbeau, c'est l'oiseau et même l'animal qui connaît le mieux l'être humain. Il est toujours là, il est très proche.
Avec Denis Chessoux.
Vu par l'homme, on peut penser que c'est un des animaux qui nous connaît le mieux.
Sur France Inter.
Michel Passereau qui défend et qui donne une autre image du corbeau. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans CO2 Mon Amour, cette émission qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature et aussi des plumes, aujourd'hui des plumes noires. À la technique, il y a Ludovic Asselot et assisté de Camille Blanès, c'est Xavier Pestugia qui réalise l'émission. Qui avant le corbeau commence par une petite allée, une petite humeur. Je ne sais pas si vous suivez les péripéties de l'accouchement avec douleur de la loi climat. Ça ressemble à un joyeux détricotage, des propositions sans filtre, bien trop vertes, mais avec des masques triple épaisseur, des 150 citoyens tirés au sort. Les deux tiers furent poubellisés vite fait. Bon. Alors on va pas freiner quand même sur les pesticides, interdire la publicité des produits polluants, envisager un peu de menus végétariens supplémentaires dans les cantines, limiter le trafic aérien quand même. Et alors, pourquoi pas se retirer du CETA, du soja OGM et chipoter sur la 5G? On garde 46 propositions, mais avec le rabot dans une main et le sécateur dans l'autre. Près de 5400 amendements pondus par nos élus, où est la broyeuse? Et dès demain, on limitera les débats à l'Assemblée à 45 heures réparties sur 10 jours. Bon, c'est un peu du climat un peu cadenassé à la sauce Givaro. Alors je sais, l'écologie ne va pas de soi et atteint très vite la complexité. La bataille de Poitiers, vous connaissez, 1356, père, gardez-vous à gauche, père, gardez-vous à droite. Hardy, un fiston de 14 ans, essaie de protéger son bon papa, le roi Jean, des coups d'un ennemi déferlant de partout, en cliquetis d'armure, la bave aux lèvres. Encore qu'à l'époque, les choses de la guerre étaient relativement claires. Le gros méchant étant censé se trouver devant nous et parler anglais. Voilà, là au moins c'était simple. Aujourd'hui, les conflits comme les virus sont multiples et protéiformes, l'ennemi est partout. Alors le bon prince Manu, n'ayant point de fiston pour l'épauler, se retrouve à seul face à l'adversité. Il aimerait faire bonne figure et plaire donc à tout le monde, ménager la chèvre et le chou, climat, biodiversité, économie, saupoudrer de rhubarbe bio ses 150 spadassins de la Convention citoyenne, parfumer de séné les ayatollahs du manger bio et les barons du CAC 40. Mais prince Manu risque de se retrouver fort dépourvu quand le moment pour lui sera de trancher. Et donner enfin un vrai cap écologique dépassant le green capitalisme sans chercher à satisfaire tout le monde et son père. Eh oui, c'est pas simple. Prince Manu de la loi climat ne peut être un super-héros. C'est un roi démocratique qui ressemble comme deux gouttes d'eau à tous ceux qui l'ont élu. Mais est-on bien sûr que ceux qui l'ont élu ont vraiment envie de changer radicalement de mode d'existence? À moins d'y être acculé par des circonstances douloureuses dont l'histoire des siècles n'est pas avare en ce moment. Qui acceptera volontiers la contrainte d'une perte même minime d'un si glorieux confort? Les choses iront donc leur train de sénateur. Irons-nous dans le sens de cette fraternité souterraine créatrice qui œuvre sans fracas dans les territoires? Complexité, vous dis-je. Et sans nier les actions positives, ni la France ni la plupart des pays aujourd'hui sont au rendez-vous du climat. Derrière le semi-déni, le climat et la biodiversité tirent déjà le signal des larmes. Alors c'est noir, ça vole, ça a mauvaise réputation, tant mieux. On en parle de ces oiseaux de pas si mauvais augure que ça. Corvidés, corbeaux, corneilles, pigeons, allez, allez, sont demandés au parloir, ça va croasser et jacasser.
Bang, tu m'as touché. Aux ailes, je suis blessé. Et sans un remords, tu me regardes couler. Dans ce corps à corps, j'esquive les coups. Et j'exprime très fort mon désaccord. Je touchais. comme un ado triste. Et j'allais jusqu'au lendemain, plus d'accord pour fermer ma gueule, pas d'accord, ces silences affreux, pas d'accord de rester toujours seul, plus d'accord, tu m'embrouilles bien trop. Au-dessous de toi, je me sens.
C'était mon professeur d'anglais préféré, ça. Pas d'accord. Ben, elle a raison, pas d'accord. Il faut pas buter les corbeaux, et pas du tout. Vous savez que le mot encorbellement, eh ben, ça vient du corbeau, et bien sûr, ça vient de l'ancien français corbel. Allez, direction le Maine-et-Loire. Ah, alors là, si je me trompe pas, c'est pas du corbeau qu'on entend quand même, là, Eric. Hein.
Alors là, on a beaucoup, beaucoup de poules et de coqs qu'on a recueillis de toutes races, ah, et oui, qui vivent vraiment en liberté, et qui sont vraiment bien acclimatés ici. Ici, c'est une terre, on dit douceur, de douceur angeline. Bon, c'est vrai que l'architecture est particulièrement agréable dans cette commune qui est Savenières, qui est un village absolument magnifique avec un vin très connu. On a une vingtaine de châteaux, donc ça dénote vraiment une histoire très forte. Ça fait marquer ici pour des choses assez culturelles et intéressantes. Maintenant, il ne faut pas non plus se leurrer, on est quand même une région où il y a aussi de la chasse, il y a des opérations de destruction, il y a du piégeage. Dans le département ici, on a plus de 4500 pies chaque année qui sont piégées officiellement, sans compter toutes celles qui sont tuées. Donc on voit bien que partout, ici comme ailleurs, on a quand même des opérations de destruction sur cette famille d'oiseaux qui sont à la fois contre-productives et qui, sur le plan éthique, ne sont plus acceptables aujourd'hui.
Parce que vous pensiez que c'était facile, la vie d'un corbeau. Alors certes, on nous voit partout, dans les champs, les parcs, vos jardins, mais on nous tire dessus, on nous piège, des siècles que ça dure, ce délit de sale gueule. On est habillé en noir pour l'hiver et pour toute l'année, et alors oui, nous sommes charognards, opportunistes, voleurs, ça arrive, mais pas forcément plus que les humains. Oiseau de malheur, bah tu parles d'un karma. Nous ne remercions pas le sieur de La Fontaine de nous avoir fait passer pour un bonnet face aux rusés renards. Heureusement, l'association Crolife d'Éric Deromain nous protège, nous soigne, nous relâche une fois en forme. Et cet homme a une passion pour nous. Son père d'ailleurs faisait des cartons en chassant et dans la cour, les animaux étaient alignés. Donc le gamin, bah, il s'est construit contre en faisant absolument l'inverse. Nous sommes dans ce coin du Maine-et-Loire qui est très beau, près de Savenières. Nous sommes, nous, corbeaux, choyés, considérés, et attisons l'intérêt de ceux qui nous rencontrent en dépassant leurs préjugés. Croyez en nous comme je crois en moi.
Alors ce domaine, c'était un territoire autrefois chassé qui a subi toutes les dégradations de l'agriculture classique conventionnelle. Et on avait un projet vraiment de sauver ce domaine et de pouvoir vraiment faire un travail à la fois d'agroécologie, de montrer qu'on peut faire une transition agricole respectueuse de l'écosystème et de la faune sauvage. Et on est vraiment très révolutionnaire sur la notion de rewilding, c'est-à-dire un vrai retour de la naturalité. Donc soit on intervient pour recréer de la valeur écologique ajoutée, soit on n'intervient pas et on la laisse de la libre évolution.
Et donc ça veut dire que pour nos corbeaux, nos corvidés, ils ont un espace qui leur appartient, ça va être quoi là ?
Alors c'est un espace uniquement qui est dédié aux corvidés, donc on a 250 hectares d'un sol tenant, et ça permet vraiment de la relâche douce, du soft release, un peu comme les anglo-saxons l'ont initié, oui. C'est-à-dire qu'on va permettre aux oiseaux de repartir bien sûr dans la nature, mais de manière très douce. On va pas éduquer l'oiseau pendant 2-3 mois quand il est tout petit, le prendre et l'emmener loin dans une forêt et le relâcher. Parce que ça, on a vu que ça marche pas très bien. Surtout que les corvidés étant extrêmement intelligents, ils ont besoin d'une éducation très longue de leurs parents. Une corneille, en fait, éduque ses petits pendant plus d'un an.
Le but quand même de CroLife, ici, donc moi j'arrive, je suis un oiseau qui a été blessé, qui est tombé du nid, comment ça se passe ?
CroLife recueille tous les corvidés, toutes les espèces de corvidés et exclusivement des corvidés. Majoritairement, ce sont des oiseaux qui sont tombés des nids en période de nidification entre avril et juin-juillet. Et on les recueille ici, soit par des particuliers qui nous les amènent de toute la France, soit par des centres de soins qui nous les amènent ici où on va les chercher. Et on fait parfois des opérations de sauvetage, c'est-à-dire qu'on va nous-mêmes sauver des corvidés. Donc on a un peu 3 sources d'oiseaux qui arrivent ici.
Et le but, c'est après donc de les relâcher, comme vous dites, de réensauvager, j'allais dire, le ciel. Quoi.
Alors, le but ici, c'est un programme de soins, mais de soins légers, de réensauvagement et de relâche. Après, lorsque ça ne marche pas, soit parce que les oiseaux sont trop handicapés, soit parce qu'ils ont été trop imprégnés, alors ils passent dans le sanctuaire. Donc on a eu 2 agréments, c'est-à-dire que l'administration nous a autorisé à faire 2 choses, puisque la mission d'un centre de soins, c'est exclusivement la relâche. Donc on n'aurait pas pu garder des dizaines et des dizaines d'oiseaux ici qui n'étaient pas relâchables. Donc lorsqu'ils ne sont pas relâchables, on les sort du centre de soins et ils passent dans une autre structure juridique. Et à partir de ce moment-là, ils ont le droit de vivre toute leur vie ici, dans un sanctuaire qui leur est dédié.
C'est bien pour ça que l'on voit alors à la fois donc des volières, mais des volières qui sont ouvertes donc un petit peu plus loin, ce qui veut dire qu'ils peuvent naviguer où ils veulent, revenir ici.
Alors on a les volières de réensauvagement dans la zone de réensauvagement, qui sont évidemment beaucoup plus loin des bâtiments, où là les humains n'ont plus de contact avec les oiseaux, sauf les nourrir par des trappes de nourrissage. Et puis au bout d'un certain temps, 2-3 mois, ça dépend, on ouvre le taquet et on laisse les oiseaux sortir, faire des allers-retours. C'est-à-dire qu'ils vont commencer par sortir, aller dans les bois environnants, mais ils ont déjà repéré leur environnement depuis longtemps. Donc en fait, on va dire qu'ils sont familiers avec leur environnement et il y a beaucoup moins de risques en fait pour leur survie.
D'accord.
Et puis ces oiseaux-là, si ça ne marche pas quand même, ils ont la possibilité de faire des allers-retours entre la base, qui est leur base où ils ont été pendant des mois dans cette volière, et puis l'environnement extérieur où il n'y a évidemment pas de prédation, pas de chasse, etc.
Alors comme on entend donc là plutôt des poules et des coqs, ce que je vous propose, vous nous emmenez voir les...
Bien sûr.
Nos corbeaux.
Allez, on y va.
Alors là, vous nous présentez.
Alors ici, c'est Lançon et Chouk. Il a 2 surnoms.
Ouais.
C'est un oiseau qui a été trouvé sur une aire d'autoroute. Il a eu beaucoup de chance parce qu'il se posait sur les épaules de tout un tas de gens qui le chassaient. Et puis, il y a des animalistes qui sont passés par là. Évidemment, quand ils ont vu l'oiseau, ils l'ont recueilli. Ils l'ont déposé à notre centre. Et c'est un oiseau assez exceptionnel. Il a été très, très imprégné. Donc cet oiseau n'est pas réensauvageable. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas retourner dans la nature. La preuve, regardez comment il est.
Oui.
Il reste sur moi, sur vous.
Super.
Il cherche vraiment l'humain.
Oh, bah oui.
Et il est très, très intelligent. Il fait beaucoup de choses ici. Lui, c'est un oiseau qui n'a malheureusement peur de rien, ce qui est dangereux pour lui, puisque comme tout corvidé imprégné, ce sont des oiseaux qui n'ont pas eu l'éducation des parents, donc ils n'ont pas du tout les codes sociaux et ils n'ont pas du tout la conscience du danger. Par exemple, nous, tous les bassins ici sont protégés parce que les corvidés imprégnés ont tendance à se noyer. On fait très attention aussi dehors aux prédateurs, surtout la nuit, puisque c'est des animaux qui n'ont pas non plus conscience vraiment des prédateurs. Donc en fait, la difficulté pour un oiseau imprégné, c'est soit de se faire tuer par des congénères qui ne vont pas l'accepter, ou par des prédateurs, ou même par des humains qui ne les aiment pas. Et lorsque l'oiseau imprégné va s'en aller un peu plus loin que la maison où il habite avec les gens qui l'ont éduqué depuis tout petit, eh bien, il va se faire probablement tuer. Donc, ce sont toujours des histoires qui se terminent mal. Et c'est pour ça qu'ici, on recueille des oiseaux imprégnés que des gens nous amènent, parce qu'ils se rendent compte qu'au bout d'un moment, ils ne peuvent plus détenir l'oiseau dans de bonnes conditions. Et l'oiseau est soit en danger, soit malheureux, soit il va s'abîmer les plumes parce qu'il est dans des endroits trop petits. Donc on a des personnes bienveillantes qui au bout d'un moment comprennent, ils nous les amènent de tous les coins de France, et après l'oiseau peut vivre sa vie ici vraiment dans de bonnes conditions.
Seigneur, quand froide est la prairie, quand dans les hameaux abattus, les longs angélus se sont tus sur la nature des fleuries. Faites s'abattre des grands cieux les chers corbeaux délicieux, les chers corbeaux délicieux.
Parlons de ces oiseaux, comment sont-ils protégés ou pas protégés? Parce que pendant très longtemps, on les a qualifiés de nuisibles. On leur a donné un nouveau petit nom, là c'est pas mal, on a là aussi la nouvelle langue est passée par là.
Oui, alors ça c'est vraiment l'habillage sémantique pour avoir l'air de dire qu'on est moins méchant. On les appelle les ésodes, espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, puisqu'on ne peut plus les appeler nuisibles. Mais dans les faits, il n'y a pas de changement. On en détruit toujours autant, donc il s'agit vraiment d'un habillage sémantique.
Alors pourquoi on les chasse, pourquoi on les tue ceux-là?
En France, il y a 10 espèces de corvidés et il y en a 4 qui sont considérés comme ésodes, donc qui sont chassables, mais aussi qui sont menacées et souvent détruites par des opérations programmées par des
donc
préfectures.
Donc c'est le freux, c'est la corneille.
Alors les 4 qui sont ésodes, il s'agit du corbeau freux qui vit dans les grandes corbeautières, on le voit parfois des centaines, la corneille noire, le jet des chênes et la pie bavarde. Et puis il y a le chouka aujourd'hui qui a un statut assez menacé puisqu'il est protégé depuis 1980, notamment par des conventions européennes. Mais de plus en plus de lobbies voudraient qu'il soit déclassé. Et il y a déjà eu plus de 60 000 choukas qui ont été autorisés à la destruction, essentiellement en Bretagne, dans ces dernières années.
Qu'est-ce qu'on leur reproche donc à ces oiseaux?
On leur reproche de manger parfois une partie de la récolte de certaines semences par les agriculteurs.
Ça s'appelle un oiseau, hein.
Ah, mais bon, alors là aussi, il faut vraiment qu'on parle du coût avantage-inconvénient, parce que ces oiseaux mangent beaucoup plus d'insectes que de graines, et notamment en période de nidification. C'est le chouka, par exemple, est quasiment insectivore. Il y a beaucoup d'études qui ont démontré ça. Donc on oublie de voir les avantages qu'il peut apporter aussi à l'agriculture. Donc ces oiseaux sont aussi des auxiliaires de l'agriculture et ont leur rôle à jouer dans l'écosystème.
12h30, Radio Corbeau. Vous avez tous appris avec consternation que l'une des exploitations agricoles second adjoint au maire a été ravagée par les flammes. Mais voilà qu'une dépêche vient de tomber. On nous annonçait que l'incendie serait d'origine criminelle. Monsieur Vinatier aurait payé un de ses ouvriers, un portugais, pour mettre le feu au bâtiment afin de toucher une prime importante des assurances. Radio Corbeau vous souhaite un excellent appétit et à demain si vous le voulez bien.
Et là, je vais me tourner vers Valériate, qui est à la fois éthologue, qui est sociologue. Et parlons quand même de ces corbeaux avec vous, Valérie. Ce qui n'aide pas non plus, évidemment, ces corvidés, vous le savez très bien, c'est la représentation qui part de très très loin. Je veux dire, tout le monde n'est pas une divinité scandinave comme Odin qui était accompagné par deux corbeaux. Bon, voilà. Donc le sort de cet oiseau est déjà un petit peu scellé. Donc c'est sur ces représentations, vous avez travaillé dessus?
Écoutez, les représentations, oui, elles sont très liées à la mort, à l'argent, à la couleur aussi, évidemment, qui joue beaucoup, parce que il y a tout un tas, enfin, vous savez, dans les exemplats médiévaux, en fait, l'apparence doit dire quelque chose de ce que l'on est à l'intérieur, et c'était les animaux noirs, les chats noirs, les corvidés, oui, voilà. Et puis aussi, sur les champs de bataille, les corvidés qui crèvent les yeux, enfin, les charognards, voilà, oui. Absolument. Donc, tout ça, si vous voulez, et puis, sont des oiseaux qu'on cloue aux portes, pour désenvoûter, y compris dans la France, vous savez, qui est la France de la sorcellerie aussi. L'argent aussi, beaucoup, c'est lié à l'argent. C'est-à-dire que dans les, par analogie, en fait, la pie voleuse et quelqu'un qui est très avide d'argent peut être appelé un corbeau. C'est le symbole, en fait, d'un oiseau qui est à la fois de mauvaise augure, qui est porteur, messager de mauvaises nouvelles, et qui est chargé du mal, de la mort, de tout un tas de choses comme ça qui sont négatives.
Dites donc, au fond, le corbeau, c'est peut-être vous?
Ah!
Ah, c'est sûr, il part avec un handicap, hein, le corbeau, il n'y a pas tortillé. Alors, on va poursuivre donc ce voyage avec Éric de Romain, juste après cette chanson.
CO2, mon amour, avec Denis Chessoux, sur France Inter.
Look too good to be alone. Ooh. My house clean. My pool warm. Just shake. Smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the East Wing.
C'était Silk Sonic, choisi par notre programmateur Thierry Dupin. Alors nous avons retrouvé notre genre Corvus, notre petit corbillard. Ah oui, il peut vivre jusqu'à 30 ans hein, quand même. avec évidemment la balade des pendus de François Villon, mais aussi le dernier tableau de Van Gogh à Auvers-sur-Oise, et ouais, dans le champ au corbeau. On va rejoindre donc cette association, donc Crolife, hein, je vous le rappelle, avec Éric de Romain. Nous sommes toujours dans le Maine-et-Loire, chez lui, à côté de Savenières.
Ah, alors là, grande volière, c'est la volière numéro 1 en quelque sorte ou...
Alors ça, c'est une volière d'observation, on a deux groupes témoins. On va les nourrir tout à l'heure et on va voir un petit peu comment ça se passe. En fait, on a ici à droite des corneilles, des corbeaux freux, à gauche également des pies bavardes. Ici, on a des oiseaux qui ont été très imprégnés, qui sont pas réensauvageables aujourd'hui. Et de l'autre côté, des oiseaux qui sont, on l'espère, réensauvageables, qui vont être transférés l'année prochaine dans les volières de réensauvagement. Mais ces oiseaux-là ont été empoisonnés, en grande partie, ce sont des corbeaux freux qui ont été empoisonnés, qu'on a sauvés de l'empoisonnement. Grâce à quelqu'un qui aimait beaucoup les corvidés dans les Deux-Sèvres. Et en fait, on a porté plainte. L'instruction est en cours à l'OFB, à l'Office français de la biodiversité. Et ces oiseaux ont été recueillis. Donc, on a sauvé des adultes de l'empoisonnement. Et on a recueilli aussi leurs petits qui étaient tombés du nid et qui étaient évidemment complètement désemparés, parfois un peu handicapés en tombant de très haut. Donc, on a sauvé ici beaucoup de corbeaux freux.
Pourquoi on tombe du nid?
Alors, dans la nature, il y a des oiseaux qui peuvent tomber du nid de manière, je dirais, naturelle. Par contre, la plupart des oiseaux ici qui arrivent, qui sont tombés du nid, c'est soit après des opérations d'élagage, par exemple, par des communes, soit parce qu'il y a eu des tirs et des opérations de destruction autour des nids, sur les adultes. Et évidemment, les petits, à ce moment-là, agonisent, ils meurent de faim, et au bout d'un moment, complètement désemparés, ils se jettent du nid et tombent au sol.
Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage.
Comment on s'intéresse quand même aux corbeaux, ça ? Vous laissez avec quel fait, vous, au-dessus de votre berceau ?
Moi, j'ai été fasciné, attiré par cette famille d'oiseaux depuis tout petit. Je peux pas vraiment expliquer pourquoi. Quand j'étais tout petit, je les dessinais dans ma chambre. Enfin, c'était déjà vraiment une vraie fascination. Et lorsque j'ai été témoin d'expériences de rencontres avec eux, puisque tout petit, j'en ai déjà sauvé, qui étaient tombés du nid et tout, j'en ai éduqué beaucoup pour pouvoir ensuite les relâcher, ça m'a complètement conforté. C'est des oiseaux qui sont complètement passionnants. Ils sont très proches de l'humain à plein d'égards. Et d'ailleurs, la fameuse théorie de l'esprit, ces oiseaux l'ont perturbé, parce que beaucoup de chercheurs ont bien montré que ces oiseaux ont un cerveau qui équivaut à peu près à un enfant de 5 ans. Donc c'est vraiment les oiseaux d'une intelligence extraordinaire.
Alors ça se traduit comment ? Ce sont des animaux qui ont de la mémoire, ce sont des animaux donc qui peuvent reproduire quelque chose, qui peuvent se servir éventuellement d'un outil, d'une petite baguette ?
Absolument, c'est des animaux qui ont une mémoire extraordinaire, notamment une mémoire faciale. Si par exemple j'y vais tous les jours et que je suis sympa, c'est bien, mais si quelqu'un d'autre y va et les maltraite, ils vont vraiment retenir leur visage. Donc ils ont vraiment une mémoire extraordinaire, ils se reconnaissent dans le miroir, on connaît l'histoire de la pie et du miroir, et c'est des oiseaux qui ont des facultés cognitives telles qu'ils sont capables de résoudre des problèmes jusqu'à 7 à 8 étapes différentes. Donc ils ont vraiment cette capacité à se projeter, réfléchir, ils observent, ils réfléchissent et ensuite ils agissent. Notamment la corneille, qui me fascine de manière incroyable parce que c'est un oiseau qui est extrêmement calme et qui, contrairement à la pie par exemple, qui va tout de suite agir, qui va être beaucoup plus speed, la corneille elle observe vraiment et ensuite elle agit. Donc c'est vraiment des oiseaux qui sont assez extraordinaires. On a vu les oiseaux qui cassent les noix sur les passages cloutés et qui attendent que les voitures passent. La corneille de Nouvelle-Calédonie fabrique de véritables outils avec des bâtons pour pouvoir attraper des choses. Quand ils cachent la nourriture, on le verra tout à l'heure ici, quand on leur donne à manger, au bout d'un moment, ils font des cachettes incroyables pour cacher les nourritures. Ils ont une mémoire phénoménale. Le geai se rappelle exactement à des mois où il a mis sa nourriture. C'est vraiment des oiseaux qui sont dotés d'une très grande sensibilité et une très grande intelligence.
Oui, venez Eric me faire la traduction s'il vous plaît, parce que il me manque quelques éléments de langage, comme on dit.
Bien.
Non, mais ça veut dire qu'il y a une communication quand même qui est assez fine.
Entre eux, ils communiquent énormément. Leur langage est extrêmement varié. Et c'est vrai qu'ils ont beaucoup de communication. Alors ici, on a un geai des chênes, qui est venu ici avec trois frères. Ils sont arrivés tous de l'Essonne suite à une opération justement d'élagage où ils étaient tombés au sol. La mairie avait malheureusement organisé ça en pleine période de nidification. Et les frères sont tous réensauvagés. Ils sont ici. On les voit parfois, on pense, parce qu'ils viennent parfois. Mais lui n'a jamais voulu vraiment partir. Toutes les tentatives, il est revenu. Et en fait, il a préféré vivre ici. Et en fait, nous, AcroLife, lorsqu'un oiseau, même s'il y a des protocoles scientifiques qui nous disent qu'a priori, il faut faire ci ou ça, notre expérience ici, c'est vraiment de s'adapter aux oiseaux. Parce qu'on voit très bien que chaque oiseau a vraiment sa personnalité propre. Et on essaie plutôt de les suivre dans ce qu'ils veulent à partir du moment où leur environnement est quand même contrôlé, où il n'y a pas trop de risques pour eux. On a un jet ici qui imite des bruits incroyables de toutes sortes, même le bruit de l'appareil photo. Il fait parfaitement le déclenchement de l'appareil photo. Il imite le chat, le chien, et alors il appelle les chiens par leur prénom. Il arrive à reproduire les sons, mais de manière magique, et puis toutes sortes de sons, même des sons d'appareils technologiques. Et vraiment, le déclenchement de l'appareil photo, au début, on ne comprenait pas. On entendait, mais on disait, mais qui prend des photos? Et en fait, c'était le jet. Voilà, c'est absolument fou.
Alors, on continue donc cette balade avec quand même toujours Eric, avec son petit bac, avec ses omelettes. Hein. C'est pas
oui,
mal,
parce que
hein.
Là,
j'aimerais
vais...
bien être un piaf. Là.
Oui, parce que là, je vais aller en mettre sur la volière de rensauvagement, puisqu'on nourrit aussi ceux qui reviennent de temps en temps, qui ont besoin de nourriture. Donc, je vais aller en poser sur... on fait ça tous les jours,
allez.
Avec tous les gens qui sont ici.
Ah, alors là, on rentre dans un endroit où, à mon avis... La porte qu'on vient d'ouvrir ne doit pas forcément beaucoup influencer les corbeaux, où sommes-nous?
Alors ici, on est dans l'espace dédié à la relâche. Donc c'est un espace clos de murs d'un demi-hectare dans lequel on implante des volières de réensauvagement. Et c'est là où on a les volières au taquet, où on ouvre le toit et où les oiseaux, quand ils ont été là pendant 2-3 mois, ils ont vraiment bien repéré leur environnement. Et quand on pense qu'ils volent suffisamment bien, ce sont des grandes volières, et puis qu'ils ont eu quand même une socialisation suffisamment à prendre tous les codes pour la quête de la nourriture, la chasse et autres, on les relâche.
Mais le fait d'avoir des murs, c'est un point de repère pour eux ou...
Le fait d'avoir des murs, c'est surtout quelque chose qui est intéressant parce qu'il n'y a pas d'humains qui vont être visibles des oiseaux. Puisqu'ici, en fait, on rentre, ils sont cachés des humains, on leur donne à manger, on s'en va. Donc à partir du moment où on les met ici, il faut qu'ils perdent vraiment le contact avec les humains, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des oiseaux, pour la plupart, qui ont été élevés à la main. Et donc il y a eu une imprégnation qui n'est pas une imprégnation irréversible, puisque c'est vraiment la première imprégnation dans la première phase primaire de l'éducation d'un petit. Donc c'est complètement réversible. Dès qu'ils mangent tout seuls, en fait, on les met avec des congénères. Et là, très vite, ils vont se réensauvager. Donc ça va assez vite. Ce qui est problématique, c'est lorsque les oiseaux ont été vraiment imprégnés pendant très longtemps. Là, effectivement, c'est parfois irréversible, comme on l'a vu avec les choucas et les corneilles qu'on a vu tout à l'heure. Mais tous ces oiseaux qui arrivent ici sont suffisamment sauvages et ont peur de l'homme. Et après, ce qui est important, c'est qu'on a tous les bois autour. Donc ils repèrent pendant très longtemps, on ne va pas les relâcher très vite. Et donc ça va être très doux comme relâche. Et puis, si c'est un peu compliqué, pendant des semaines, ils vont revenir manger sur la volière et petit à petit s'éloigner et ensuite faire leur vie dans les bois ou plus loin.
Comment vous regardent les personnes qui ne vous connaissent pas? Comment, on va dire, ils jugent le travail que vous effectuez? Parce qu'ils vous disent, mais c'est quoi cet homme-là? Il relâche des corbeaux, il réensauvage la nature.
Eh bien, moi, j'essaye toujours de dialoguer, d'expliquer. En plus, je suis né dans une famille de chasseurs. Mon père était chasseur. Et j'ai très vite compris qu'on ne peut pas tuer ce qu'on aime. Le problème, c'est que beaucoup de gens ont des a priori. Ils ont peur. En fait, c'est la peur de la nature. Et c'est la peur d'une part qui est en nous. Mais notre humanité, notre combat aussi pour les protéger, ça s'inscrit dans le droit fil de tous les combats qui ont été faits pour que l'homme évolue et prenne conscience. Il y a eu le problème de l'esclavage, le problème des droits des femmes. Aujourd'hui, ben maintenant, le grand combat, c'est le vivant non humain, qu'on puisse le respecter et qu'on n'arrête cet excès anthropocentrique tout le temps, cette préférence systématique. Nous, on préfère effectivement le taureau au toréador, on va préférer le cerf au chasseur à cours et on va préférer la corneille à celui qui va la piéger ou le détruire. C'est ça aussi qu'il faut changer. C'est notre regard sur le vivant, pas seulement pour des raisons éthiques, mais aussi pour sauver notre propre espèce. Donc ce combat qu'on mène pour les corvidés, il est symbolique de tout un tas de combats. Mais tous les gens qui ont des a priori sur ces oiseaux, lorsqu'ils viennent ici et lorsqu'ils comprennent et lorsqu'ils voient ces oiseaux, ils ont quand même une part de fascination et ils comprennent que ces oiseaux sont aussi proches d'eux, très sensibles, et qu'on ne peut pas comme ça vouloir les détruire parce qu'ils mangent quelques graines. Oui, certes, ils mangent des graines, mais il faut qu'on apprenne à cohabiter avec la faune sauvage.
Maître Corbeau sur un chêne mastard tenait un fronton dans le clapoir. Maître Renard reniflait qu'au balcon, quelques sombres zonards débouchaient les flacons.
pauvre corbeau, tu t'es bien fait avoir. Mais quelle idée de bêter sur un chêne. Et vu que tu chantes comme la reine des passoires, c'est bien coton d'en vouloir au renard.
Eh ben c'est pas mal, Pierre Perret, dites donc, là, pour terminer, on a eu aussi donc Léo Ferré pour cette passion corbeau. Merci à Éric de Romain, à Valériat, donc éthologue, et puis aussi à Sébastien Porte de Télérama qui nous a donc accompagnés. Vous avez là sur le site aussi bien de France Inter que peut-être sur suite Télérama, donc les coulisses, on va dire, de ce reportage. Puis merci à Tchouk, qui est ce petit chouka qui s'est posé sur mon épaule. C'était absolument charmant. Bon, faut dire aussi que j'avais un petit peu d'omelette dans la main. Ça a éventuellement pu l'attirer. Aussi, Tchouk pourra-t-il lire Corbeau et Corneille aux éditions de La Chaux et Niesley. Peut-être l'ouvrage de Michel Pastoureau aux éditions du Seuil sur le corbeau. Et la semaine prochaine, eh bien, ça va être complètement différent. Il y aura peut-être pas trop de corbeaux. Quoique, nous irons en Ardèche et on retrouvera Pierre Rabhi chez lui. Merci à Ludovic Caslot, à Camille Blanès et à Xavier Pestugia qui a réalisé cette émission. Le Twitter, c'est Denis Chessou, tout attaché. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de dimanche.